VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Élection au Botswana, le président sortant Mokgweetsi Masisi a remporté ce vendredi les élections générales dans son pays, malgré la fronde inédite de son prédécesseur à la tête de l'État, Yann Kama, qui menaçait le règne sans partage exercé par le BDP, le Parti démocratique du Botswana, sur le pays depuis un demi-siècle. Au terme de deux jours de dépouillement, M. Masisi, 58 ans, a été proclamé élu pour un mandat de 5 ans, dès la confirmation que le BDP avait obtenu la majorité absolue des 57 sièges du Parlement. Le président Mokgweetsi Masisi dirige le pays depuis avril 2018. Pour sa part, la Coalition pour un changement démocratique, UCD, principale formation de l'opposition, dit rejeter les résultats du scrutin en les qualifiant de frauduleuses. La lutte contre l'insécurité dans la région des Grands Lacs d'Afrique maintenant, les casques bleus de la MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, n'ont pas de mandat pour soutenir les armées de la RDC et des pays voisins de la sous-région des Grands Lacs qui se préparent à neutraliser les groupes armés actifs dans cette zone. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi la chef de la mission onusienne à RDC, Leila Zerougui. Notre mandat aujourd'hui, c'est de soutenir les FARDC, l'armée nationale congolaise, a précisé Madame Zerougui sur Radio Okapi, la radio de l'ONU en RDC. La représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC a réitéré que la MONUSCO n'a pas de mandat pour appuyer les forces étrangères qui viennent en RDC. Rappelons que les chefs des armées de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie et de l'Ouganda se concertent depuis jeudi à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, dans l'est du pays. Objectif, mutualiser leurs efforts afin de neutraliser les dizaines de groupes d'armées nationaux et étrangers présents dans l'est congolais. La MONUSCO et AFRICOM, le commandement des États-Unis. Le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique participe comme invité et comme observateur aux travaux en cours. Une première réunion sur le même sujet avait eu lieu du 13 au 14 septembre, également à Goma. En attendant le communiqué final de la réunion en cours, les avis sont partagés dans les rues du chef-lieu du Nord Kivu sur les discussions entre les chefs militaires. Les détails avec Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Les pays hôtes qui est la RDC ainsi que le Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, mais aussi les représentants de la force et de l'armée américaine pour l'Afrique, AFRICOM en sigle, et la MONUSCO ont été conviés à cette rencontre, la deuxième après celle de septembre dernier. Le général Richard Kasonga, porte-parole des FARDC.
Et bien, nous sommes venus nous retrouver pour la suite afin de mettre un terme à nos réflexions stratégiques sur la mutualisation de nos efforts afin de produire la paix à l'est du pays et dans la sous-région.
Les premières cibles pour cette opération pourront être les groupes armés étrangers tels que les islamistes ougandais des ADF, la rébellion rwandaise des FDLR, les burundais des FNL ou les raids de Tabara, tandis que parmi les groupes congolais, il y a comme les Nyatura, les Mai Mai dans la province du Sud et du Nord Kivu. Ces pays associés à cette opération pourraient fournir des forces spéciales, une nouvelle qui provoque déjà des remous et des méfiances ici au Nord Kivu, une province habituée à des rébellions, et que ces deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, sont accusés de soutenir. Patrick Baal et Adalbert Kiengi sont habitants de Goma et acteurs politiques.
En termes de jurisprudence, nous ne pouvons plus jamais accepter que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi tentent de faire semblant de venir encore nous aider. Nous pensons aujourd'hui, et vous sentez déjà dans la population, il y a des remous, parce que pour nous, si le président de la République prend cette option, pour nous, ça sera une autre trahison.
C'est ici pour moi l'occasion d'interpeller tous les députés ressortissants de la province du Nord Kivu, de ne pas cautionner ça à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, le chef de l'État ne peut pas agir par l'acte de gouvernement. Par exemple, moi, je suis ressortissant de Rutshuru dans le Bwito. Je ne peux pas accéder là-bas puisque les Rwandais, ils sont investis chez nous, ils se sont installés chez nous comme autochtones de là. Ils ont insécurisé chez nous. Je ne peux pas aller. Les kidnappings, tout ce qui se passe au Nord Kivu, tout ça, c'est la résultante de l'occupation rwandaise ici. Puisque les FDLR, les ADF, il faut que les Rwandais et les Ougandais acceptent aussi de négocier comme nous, nous l'avons fait.
Pour la société civile, cette nouvelle initiative devrait être précédée d'une évaluation des opérations principales RDC Jar. Placide Nzilamba, cadre dans les bureaux de la coordination de la société civile ici au Nord Kivu.
Les opérations qui ont été menées ici comme au Mont Jawetu n'ont fait que disperser les FDLR dans les forêts et au lieu de les mater. Nous pensons que l'Assemblée nationale devait aider cette population de l'Est à rester prudente pour ne pas accepter toute opération avant toute évaluation.
Les forces armées de la RDC ont demandé aux groupes armés de déposer leurs armes et qu'ils se rendent avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est pas exclu de voir dans les prochains jours un état-major interarmé des forces spéciales de la sous-région qui pourrait être basé à Goma. Charlie Kassereka pour VOA Afrique, Goma.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, le Nigeria a promis de lever d'ici quelques jours les interdictions d'activité pesant sur deux ONG humanitaires dans le nord-est du pays, en proie à l'insurrection djihadiste de Boko Haram. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi Mark Lowcock, secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, actuellement en visite à Abuja, la capitale fédérale nigériane. Les bureaux de l'ONG française, ACF, Action contre la faim, et de l'ONG internationale Mercy Corps, avaient été fermés en septembre dans le nord-est. L'armée nigériane accusant ACF d'aider et d'encourager les terroristes en leur fournissant nourriture et médicaments. Mark Lowcock a estimé que la reprise des activités des ONG devrait permettre de fournir une assistance vitale à près de 400 000 personnes privées de nourriture et d'aide essentielle depuis un mois. Sur le terrain, l'armée nigériane a adopté une nouvelle stratégie militaire dans sa lutte contre les djihadistes. Abuja concentre actuellement ses troupes dans de grands camps retranchés et élimine les bases avancées plus vulnérables face à l'ennemi, ce qui laisse de facto une large portion du territoire à la merci des insurgés. Et toujours concernant le combat anti-djihadiste en Afrique de l'Ouest, les chefs militaires des pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, vont se réunir le 11 novembre. Les participants tenteront de déployer fin 2019 ou début 2020 des troupes au Mali, au Burkina Faso et au Niger afin de lutter contre les groupes extrémistes. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Pour citer le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, les chefs des opérations vont monter des opérations conjointes qui feront intervenir des bataillons sénégalais, ivoiriens et autres sur des théâtres maliens, burkinabés et autres. Il a ajouté, nous voulons déterminer des zones, comme la zone des trois frontières Mali, Burkina, Niger, où nous allons faire des manœuvres conjointes. Donc des présences solidaires qui vont nous permettre d'occuper l'espace, réduire l'espace des terroristes et permettre aussi à ces armées, Mali, Burkina Faso, Niger, qui sont en proie à des attaques quotidiennes, de souffler un peu. Le lieu de la réunion du 11 novembre n'a pas été précisé.
Le premier sommet Russie-Afrique à Sochi sur la mer Noire a ouvert une nouvelle page dans les relations entre Moscou et le continent africain. En clôturant hier l'événement, le président russe Vladimir Poutine a promis d'intensifier la coopération pour réaliser les objectifs de Moscou. Les détails avec Eric Manirakiza.
Le président Vladimir Poutine a salué deux jours de rencontres professionnelles et amicales. « Nous avons l'intention d'intensifier la coopération », a poursuivi M. Poutine, rappelant l'objectif russe de faire passer à 40 milliards de dollars les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique d'ici à 5 ans. Il a confirmé que des sommets Russie-Afrique seront désormais organisés tous les 3 ans. Une déclaration commune à l'issue du sommet dénonce notamment les dictats politiques et le chantage monétaire et appelle à une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour lui donner une plus grande représentativité. Vladimir Poutine a aussi promis que la Russie continuerait à aider les pays africains en effaçant leurs dettes. Il a assuré que ce montant dépassait déjà 20 milliards de dollars. Tous les 54 États africains étaient représentés à Sochi, dont 43 chefs d'État ou de gouvernement, mais aucun contrat majeur n'a été annoncé durant ces 2 jours.
Bras de fer entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur le partage des eaux du Nil. Pour terminer, l'administration Trump a invité le 6 novembre à Washington les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan pour discuter du grand barrage de la renaissance éthiopienne sur le Nil bleu, source d'une tension croissante entre Addis Abeba et le Caire, qui craint pour son propre approvisionnement en eau, l'Égypte dépendant à 90% du Nil dans ce domaine. La lettre d'invitation obtenue par la Voix de l'Amérique a été envoyée par le secrétaire américain au Trésor Steve Mnuchin aux trois pays et à David Malpass, président de la Banque mondiale. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.